France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet Campagne, bonjour. Nous ouvrons cette semaine de façon un peu particulière aujourd'hui avec Patrick Atoun, président d'Emmaüs International, suite à l'apparition du premier rapport mondial sur les combats que l'association mène contre la pauvreté dans le monde. Évidemment, les carnets reprendront leur rythme habituel demain en allant nous renseigner sur les solutions qui germent, entre autres, dans le département de la semaine, à savoir le département de l'Allier.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Patrick Atoun, bonjour.
Bonjour.
Patrick, vous êtes depuis 2016 président d'Emmaüs International. On sait que le phénomène du compagnonnage s'est étendu dans 41 pays qui couvrent 4 continents dans le monde. Vous êtes à l'origine d'un rapport qui a été publié récemment avec une campagne de lutte contre la pauvreté. Alors, le point de reconnaissance, c'est hashtag Our Voices Matter. Oh, pardon, mon accent est toujours mauvais en anglais, comme le vôtre. Non, je blague. Je blague. Mais c'est une manière, jusqu'au 28 novembre, d'alerter qui ? D'alerter les pouvoirs publics, d'abord ?
Ah, c'est ça, surtout, notre préoccupation au niveau d'Emmaüs International. Parce que Emmaüs, depuis 70 ans, c'est des actions que nous avons menées, nous avons pu réaliser beaucoup de choses, et nous disons aujourd'hui, face à cet état de choses où la précarité va plus loin, il faut agir. Parce que, avec la crise de la Covid, il y a 150 millions de personnes qui vont virer dans l'extrême pauvreté. Et l'extrême pauvreté chez nous, c'est que on voit que même le prix d'une baguette de pain ici en France, les populations dans le monde n'ont pas accès à ça. Donc pour nous, on ne parle pas de la générosité, il faut agir.
Mais ça veut dire, Patrick, plusieurs degrés de pauvreté, comme vous venez de le dire. Par exemple, la pauvreté chez vous au Bénin n'est pas la même, n'a pas le même sens que pauvreté en France.
Oui, mais la pauvreté en elle-même est quelque chose. Nous axons un peu notre appréciation de la pauvreté par rapport aux droits fondamentaux. Parce que pour certains, c'est un logement, pour d'autres, c'est l'éducation, pour d'autres encore, c'est comment manger. Donc, dans n'importe quel continent, dans n'importe quelle région, s'il y a une partie de ces droits fondamentaux qui ne sont pas mis en œuvre, c'est la pauvreté. Oui. Et comme on l'a dit, c'est à des degrés différents. Nous qui sommes dans les pays du Sud, en Afrique, en Asie, en Amérique, c'est vraiment une plus grande pauvreté par rapport à ce que nous constatons ici.
À partir de votre rapport et ces combats contre la pauvreté avec les voix d'Emmaüs, vous appuyez sur 3 exigences. Impliquer les personnes vulnérables pour qu'elles aient une place à part entière dans la société. Là, ça se fait, nous, on l'a avec une économie sociale et solidaire, très souvent sur des chantiers d'insertion en France, comme ailleurs. Mais ça, ce n'est pas suffisant.
Oui, c'est pas assez. C'est pas assez. Je pense que dans n'importe quel pays de démocratie où là, il n'y a pas la démocratie, c'est ce que les politiques nous disent. Mais c'est ce que nous constatons, c'est que les décisions sont souvent aveugles aux misères des peuples. Aveugles, c'est peut-être fort, mais ils ne voient pas ou bien ils ne perçoivent pas ce degré de pauvreté quand vous prenez les pays du Sud où, dans nos pays, il n'y a pas de possibilité de sécurité sociale. Où les pauvres gens, les pauvres villageois, les puissants qui sont dans les champs, ils ne peuvent pas avoir accès à la santé. Dans nos pays, l'accès à l'eau potable, on ne peut pas concevoir aujourd'hui qu'au XXIe siècle, qu'il y ait encore de nombreuses populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et c'est tout ça, en matière d'éducation, en matière de logement, en matière même d'égalité entre hommes et femmes, c'est des situations de crise que nous vivons dans nos différents pays. Et nous disons aujourd'hui, il n'y a pas encore à demander, à chercher autour, il faut agir. Et c'est le fait d'agir que nous avons pu, dans notre rapport, parler un peu des expériences que nous avons eues dans différents domaines et comment nous sommes arrivés à sortir un peu le pied de l'eau. Et nous disons à nos politiques, c'est votre devoir. Nous sommes là que accompagner, nous sommes là pour taper sur la table, pour dire, venez avec nous, discutons. Et prenons en charge les préoccupations des uns et des autres.
Ouais. Je ne sais pas s'il y a une solution internationale, mondiale, il y a une solution d'État à État, et il y a une réalité que l'on vit aussi en France, c'est qu'il y a la fameuse grande économie qui ne changera pas, et puis une économie dite secondaire qui prend de plus en plus de place, qui justement inclut ces personnes qui sont souvent en souffrance ou dans la marge. C'est sur cette économie-là qu'il faut appuyer davantage, et ça c'est du ressort des États. Chaque État doit mettre en valeur cette économie.
Non, mais c'est clair que depuis longtemps, ce que nous appelons le néolibéralisme est présent partout. Mmh. C'est-à-dire que c'est la recherche effrénée du profit qui fait que les États, même si au départ il y a de bonnes intentions, il y a les intérêts qui s'entremêlent, ce qui fait que bon, on ne prend pas à charge les préoccupations des gens. C'est pourquoi nous disons que s'il y a une économie qui permet aux personnes qui sont en difficulté, une économie basée sur le partage, une économie qui prend en charge l'être humain et son environnement, c'est sur ça qu'on doit travailler. Mmh. Et c'est ce que vous appelez l'économie secondaire, où dans nos différents pays, on travaille plus dans l'économie informelle. Mais cette économie formelle, quand je prends un peu l'Afrique, nous avons plus de 50% de personnes qui travaillent dans cette économie. Si, avec le pouvoir public, on peut discuter, mieux structurer les choses, ça participera aussi au relèvement de cette richesse nationale et mondiale. Donc, oui, les grandes sociétés, les multinationales, vous avez fait votre travail, mais écoutez-nous, travaillez avec nous pour que nous puissions réfléchir ensemble, parce que faire reculer la pauvreté, ça ne peut pas être une affaire d'une seule personne, bien sûr l'État, mais nous aussi en tant que société civile, en tant que population participant à la richesse mondiale, on a notre mot à dire.
Patrick Atoun, président d'Emmaüs International, est avec nous pour les carnets de campagne. On a un plaisir de le recevoir parce qu'on change d'échelle, même si les problèmes que nous fréquentons en France pour des populations fragilisées peuvent ressembler de près ou de loin à d'autres populations. Et je parlais des trois exigences sur lesquelles vous fondez votre campagne aujourd'hui à Our Voices Matter. C'est aussi la deuxième, placer l'intérêt général au cœur des politiques publiques. On en revient à ce qu'on disait il y a un court instant sur une économie alternative, ce qui a toujours été défendu par les tenants de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire c'est de remettre non pas l'homme au service de l'économie, mais c'est l'économie au service de l'homme. Qui peut entendre ça encore aujourd'hui?
Oui, c'est difficile de revenir chaque fois sur cette question. Parce que ce que nous avons remarqué par rapport à ça, c'est que les États deviennent un peu démissionnaires face à la finance. C'est-à-dire que...
Même les plus pauvres?
Même les plus pauvres dans nos pays d'Afrique et tout ça. Quand nos États nous présentent, les gens sont élus et ils nous présentent des situations où on pense qu'on peut améliorer les conditions de vie des gens. Dans le vécu, c'est pas ça. Je prends le cas de quelques exemples que nous avons aussi par rapport à ça. Dans le domaine de l'eau, nous, au niveau d'Emmaüs, on dit, mais l'eau, c'est la vie. Mmh. On peut pas comprendre que, de plus en plus, on veuille privatiser les sociétés de distribution de l'eau. C'est pas possible. Parce que l'eau, quand même, qui est un bien, un droit à la vie, là, les gens le font. Et nous, et Emmaüs, on a dit, non, on n'est pas d'accord par rapport à ça. Les populations, ils ont besoin de cette eau vitale, et c'est à cette population vraiment de gérer. Et nous l'avons mise en œuvre à travers un projet que nous avons, que Emmaüs a accompagné au Bénin, qu'on appelle le projet d'accès à l'eau et à l'assainissement, où 100 000 personnes, grâce à la mobilisation des populations, à la mobilisation d'Emmaüs, nous avons pu offrir à cette population l'accès à l'eau. C'est la même chose pour la question de santé, où dans nos pays, bon, la crise de Covid, nous savons tous que ça a engrangé comme problème au niveau de nos États, parce que nos États n'étaient pas bien outillés pour prendre en charge la santé.
Bien sûr. Chez vous au Bénin, vous avez été fortement frappé par
le
Covid.
On a été frappé, mais il faut reconnaître, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a été frappé, mais on n'a pas eu autant de victimes comme ici en Europe. Et nous, on a été frappé par le fait que bon, on a connu la première vague, qui était une vague assez légère, où il n'y avait pas beaucoup de... Mais c'est la deuxième vague. Mmh. Et la préoccupation fondamentale aujourd'hui, c'est les vaccins. Mais comment on peut comprendre? Et c'est ça aussi que nous ne comprenons pas au niveau de la société civile. Mais il y a eu des recherches pour les vaccins. Chez nous, en Afrique et dans d'autres pays, il y a eu cette initiative-là de donner des vaccins aux pays en voie de développement, mais on nous dit les vaccins chinois, c'est pas reconnu. Quand même, la Chine, c'est le plus grand pays avec plus d'habitants. Nous avons aussi les vaccins chinois. Et après, on nous dit, bon, même si c'est reconnu par l'OMS, nous, moi, la France, je ne le connais pas. La deuxième chose aussi que nous dénonçons et qu'il faille travailler sur ça, c'est par rapport à la répartition de la richesse. L'argent, il y en a. On a vu au niveau des banques ici, quand il y a eu ces problèmes des banques, les caisses ont été renflouées. Au niveau de la crise Covid, les États européens, la plupart, ils ont mis, par rapport à la population, des ressources pour relever les banques et tout ça. Mais nous, on n'en a pas. Et on nous dit que la moitié de la population vit avec moins de 5 dollars par jour. Et 1% de la population mondiale détient 44% des richesses privées du monde. Mais où sommes-nous? C'est le cri que nous disons. On lance cet appel et on dit, les amis, arrêtons de discuter. Et au niveau des Maïs international aussi, cet appel que nous faisons, ça fait suite à l'appel que l'abbé Pierre a fait en 1954, le 1er février. Dans le temps, c'était lié aux crises de logement, parce qu'il n'y avait pas de logement. L'abbé Pierre a dit arrêtez. Avec cette richesse, on ne peut pas être dans cette situation.
Et c'est la première fois qu'un appel international est lancé.
C'est la première fois qu'un appel international est lancé parce que nous avons dépassé le signe du tolérable. 150 millions de personnes, avec tout ce qu'il y avait comme précarité, on dit autant de personnes vont virer dans l'extrême pauvreté. Ajoutez à ça les crises liées, ce que nous appelons la justice environnementale, c'est-à-dire l'écologie.
C'est le troisième point, construire une économie qui soit réellement au service de l'être humain et de son environnement.
Absolument, donc c'est pour ça que nous disons qu'au vu de tout ça, il faut que nous puissions vraiment nous dire les choses, et ce que nous disons, il faut partager. Les gens nous diraient, mais partager, c'est pas distribuer des cacahuètes et tout ça, mais s'entendre et écouter les gens. Et je crois que ça pourra avancer.
Merci Patrick Atoun, président d'Emmaüs International. Le site c'est emmaüs-international.org. Et puis donc, il y a cette campagne hashtag Our Voices Matter.
Merci à vous.
Thanks a lot. Dans son rapport, Emmaüs International donne d'autres exemples d'actions de lutte contre la pauvreté réalisées avec les communautés. Or, tous les pays sont concernés, et non seulement les pays dits en voie de développement. Illustration avec le programme de foncier solidaire mis en place dans l'état du Maine, au nord-est des États-Unis. Cet état se distingue par son troisième rang national en termes de malnutrition. Par ailleurs, la précarité de certaines familles est telle que l'accès au logement est très, très problématique et reste une question cruciale. En plus des solutions d'hébergement d'urgence, le groupe américain Emmaüs Home a créé un organisme de foncier solidaire qui gère une soixantaine d'habitations, soit en construction, soit en rénovation, afin de permettre à des familles d'acquérir enfin un bien. Sous une autre latitude au Bangladesh, encore englué dans la tradition des unions très précoces, laissant des adolescentes sous l'emprise abusive de la famille de leur époux, une stratégie éducative et de médiation est mise en place avec l'intervention d'équipes Emmaüs dans les villages qui interviennent en tierce partie dans les familles concernées par un conflit conjugal. D'ailleurs, l'association a monté un programme d'éducation des jeunes de 12 à 16 ans sur l'égalité des genres en promouvant les valeurs de respect et d'entraide entre garçons et filles. Et puis, dernière illustration en Espagne avec la communauté Emmaüs de Pamplune qui est parvenue à faire reconnaître son travail de collecte des encombrants passant un accord avec les équipes municipales afin d'éviter une mise en décharge systématique des rebuts. Il y a plein d'exemples comme ça. Nous en reparlerons évidemment dans d'autres éditions.